Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. En assurant que nous devons profiter des semaines de confinement pour que les cœurs s'ouvrent pour toujours, vous démontrez que vous demeurez un romancier très en veine. Bonjour Didier Van Kovelaert.
Bonjour Jacques.
Alors, il y a un nouveau roman qui tombe bien parce que c'est écrit pendant le confinement, L'inconnu du 17 mars chez Albin Michel. On va reparler de cette période de confinement, mais dans les clés d'une vie, on parle de vous. Alors, on vous avait déjà accueilli voici 4 ans, et puis j'ai quand même trouvé d'autres choses sur vous à travers des dates. Ah. La première, elle ne vous concerne pas directement, mais elle est importante, vous n'étiez pas né, c'est le 27 mai 1944, c'est la première de Huis Clos, au théâtre du Vieux Colombier. Les critiques se déchaînent, on prend cette pièce très au sérieux, on parle d'une attaque contre la chrétienté, on la compare au soulier de Satan, alors que c'est tout autre chose, et c'est vous qui l'avez démontré, Didier Van Kovelaert.
C'est la première pièce que j'ai mise en scène au Club Théâtre du lycée où j'étais à l'époque, en 1977, parce qu'on avait besoin de textes qui aient peu de personnages et un seul décor.
Ouais,
et
comme aujourd'hui.
Quatre personnages, un décor, c'est génial. Et puis, j'étais en première, je n'ai pas encore fait de philo, j'ignorais tout de l'existentialisme de Sartre. Donc j'ai monté la pièce comme elle est écrite. Et c'est une comédie féroce, d'une comédie de situation extraordinaire, qui n'est absolument pas une attaque de la chrétienté ou de quoi que ce soit. On a vu aussi une attaque contre les Allemands, j'aimerais savoir où elle est. Mais bon, c'est simplement ce qui peut arriver de pire à des gens qui vont vivre l'enfer d'être simplement réunis. Parce que, d'abord, on croit qu'ils n'ont rien à se dire. En fait, ils ont trop à rebondir les uns sur les autres. Et voilà, c'est vrai que c'est, à l'époque, au théâtre de Nice, c'était Jean-Pierre Bisson qui dirigeait le théâtre et qui offrait aux troupes amateurs son jour de relâche. Il auditionnait quand ça lui plaisait, il donnait sa salle. Et en fait, on joue devant lui, on l'entend glousser quelques fois, et puis il nous arrête au bout de 20 minutes en disant « c'est très drôle, ça, je l'apprends ». Et c'est comme ça que ça a été une aventure extraordinaire.
Alors ce qui compte aussi, c'est que vous avez dû obtenir l'autorisation de Jean-Paul Sartre.
Le problème, c'est que je ne savais pas qu'il fallait demander l'autorisation d'une pièce quand c'était un théâtre professionnel. La publicité sort scène nationale, théâtre de Nice, et on reçoit une lettre commandée de la Société des auteurs, la SACD, disant interdiction de jouer cette pièce, les droits n'ont pas été demandés. Et là, mon père, qui était avocat, me dit « bon, il n'y a qu'une solution, il n'y a que l'auteur qui peut passer par-dessus la SACD, écrit à l'auteur ». Donc, me voilà en train de faire une lettre à M. Jean-Paul Sartre, édition Gallimard, où je lui explique qu'on est une troupe de lycéens, on s'est emballé pour sa pièce, on ne savait pas qu'il fallait demander les droits, et j'envoie ça comme vraiment la bouteille à la mer aux éditions Gallimard. 8 jours après, je reçois un télégramme, autorisation à jouer Huis Clos, Jean-Paul Sartre. Ça, à 17 ans, c'est le plus beau des cadeaux. C'est un signal de bienvenue dans le monde de l'art, le monde du théâtre, de la part de Sartre, qui est un vieux monsieur quasiment aveugle. À l'époque, il a autre chose à faire. Et maintenant, il répond tout de suite pour une troupe de jeunes inconnus. Et plus beau cadeau encore qu'il me fait, on joue la pièce en 700 personnes et je reçois une lettre adressée à monsieur le metteur en scène Huis Clos au théâtre. Monsieur, des amis étaient dans la salle, m'ont dit que le public riait. Lorsque j'ai écrit cette pièce, je pensais avoir fait une comédie, tout le monde a su me prouver le contraire. Merci 34 ans après de m'avoir redonné raison, signé Jean-Paul Sartre. Alors ça, évidemment, c'était encadré, c'était... Tout est possible et toutes les déceptions, tous les retours de bâton après perdent beaucoup d'acuité quand vous avez eu ce genre de cadeau.
Alors, vous avez donc eu droit à votre premier cadeau de metteur en scène par Jean-Paul Sartre. Il y a quelqu'un d'autre qui doit beaucoup aussi à Jean-Paul Sartre, c'est Juliette Gréco.
Si tu t'imagines, si tu t'imagines, fillette, fillette... Si
il faut savoir, Didier Van Kovelaert, que Gréco est au tabou un soir, puisque c'était le repère des existentialistes, et il voit Gréco et il parle avec elle, il la convainc de chanter. Et le lendemain, il la convoque à 9h du matin chez lui, boulevard Saint-Germain, il lui montre des partitions, et elle choisit cette chanson de Raymond Queneau, qui va être ensuite mise en musique par Joseph Cosma. Et c'est grâce à Sartre que Gréco, qui ne voulait pas chanter, a chanté.
Eh oui, un autre de ses mérites.
Voilà. Alors, le métier du théâtre, il y a quand même des gênes chez vous, parce que je crois que votre père, qui est avocat au départ, il voulait écrire.
Oui, et puis il a écrit. Il écrivait tous les spectacles pour le Lions Club dont il faisait partie, les spectacles de théâtre destinés à financer la formation des chiens guides d'aveugles, d'où est née une une autre de mes passions. Et du coup, je m'étais un petit peu glissé dans les pièces, je faisais les petits rôles. Tout est arrivé très tôt dans ma vie. L'écriture, ce qui se passe sur scène et en coulisses entre des comédiens amateurs, c'est tout à fait complémentaire à la solitude de l'écriture.
Oui, alors en plus, à l'époque, vous étiez très jeune, vous devenir le plus jeune écrivain de France et du monde, et vous dictiez des textes à sa secrétaire, à la secrétaire de votre père.
Et c'est elle qui tapait mes manuscrits, oui, une secrétaire d'avocat, alors elle niait ça. Ça l'a changé des minutes de tribunal, des conclusions. Et j'enregistrais, en fait, parce que j'avais déjà une écriture de cochon, donc j'enregistrais mes textes, et elle avait un casque, et elle tapait en douce sur les fournitures du cabinet d'avocats.
Alors, c'est vrai que vous racontiez déjà des histoires, c'est-à-dire que à votre père, Didier Van Cauwelaert, vous racontiez des histoires avec une facilité déconcertante.
Bah, c'est lui qui m'avait donné le virus aussi. Ouais. Il avait commencé à me faire des feuilletons style Pierre Dac, dès que je suis né. Et voilà, cet imaginaire provocateur, jubilatoire, à la fois foutraque et rigoureux, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué. Et puis en plus, mon père souffrait beaucoup par ailleurs. Il avait 15 centimètres de différence entre les deux jambes, entre un gros accident de voiture et tout. Et quand il faisait rire les autres, il ne souffrait plus. Donc ça m'a profondément marqué que le rire, l'allégresse est plus fort que la souffrance physique et morale, et je l'ai expérimenté moi-même ensuite.
Et il se trouve aussi qu'il y avait quelque chose de très important pour vous, que vous avez découvert, c'est la sonorité des mots. Ça, c'est essentiel pour vous, Didier Van Cauwelaert.
Oui, les vibrations d'une phrase, ce que Flaubert appelait faire son gueuloir, c'est vraiment envoyer comme un joueur de tennis les mots contre le mur et avoir le retour son. C'est vrai que j'ai besoin d'écrire à voix haute pour vérifier, bien sûr, le tempo, les montées de rythme, les bémols, et aussi le fait que la sonorité provoque ou non une image. Parce que il y a très peu de descriptions dans mes livres, alors qu'on me dit, mais c'est très visuel. Oui, c'est visuel, mais par le biais sonore. Et il n'y a rien pour moi de plus excitant, de plus difficile aussi, mais de plus donc passionnant à essayer de réussir, c'est de créer une image par un biais sonore.
Alors, à 7 ans, vous publiez votre premier roman, votre première nouvelle, L'étrangleur de Carvelet, et puis ensuite, une traversée du désert jusqu'à 21 ans, avec des manuscrits refusés par tout le monde, mais que vous avez conservé, je crois.
Oui, j'ai eu de la publication dans les journaux de collégiens, dans les revues paroissiales, dans le courrier des lecteurs de Télé 7 jours aussi, dont j'étais... J'étais un habitué. Et puis, moi, je pensais que mon âge, j'ai commencé à envoyer à 9 ans les manuscrits, je pensais que mon âge était un argument publicitaire.
Oui.
J'imaginais déjà sur la bande le premier roman policier que j'écrivais à l'époque, publié par un enfant de 9 ans. Et puis après 10 ans, 11 ans, 12 ans, je me disais, ils sont cons, un jour cet argument ne vaudra plus rien quand j'aurai un âge normal.
Et puis finalement, ça ne s'est pas fait. Vous avez commencé des études de lettres classiques, mais ça n'a pas vraiment duré. C'est-à-dire votre culture classique, c'est par vous-même, je crois, Didier Van Cauwelaert.
Non, j'ai eu la chance d'avoir des professeurs extraordinaires, de faire du grec en été 4. Voilà, c'est là où il se passe des choses formidables. Vous allez directement dans le texte et tout. Mais après, lorsque vous avez eu quelques professeurs extraordinaires, vous êtes très difficile et très exigeant. Et quand après... y compris en hippocagne ou en fac, vous êtes un petit peu déçu parce que, moi, les meilleurs de ma scolarité, c'était mes instituteurs, qui étaient des génies absolus à l'école communale, et la barre a été mise très haute dès le début. Et après, vous avez l'envie, vous savez où aller chercher les infos, dans quel livre, tout ça. Après, on peut se débrouiller. Mais si on n'a pas eu des instituteurs qui vous donnent l'envie et les outils... Là, les plus grands profs de secondaire après pourront pas rattraper.
Et finalement, vos études vous ont mené directement à l'écriture.
Disons que c'est l'écriture qui a pris dans les études ce dont elle avait besoin pour se nourrir. Et comme je savais ce que je voulais faire, voilà, je ne perdais pas mon temps dans les disciplines dont je savais que je n'aurais jamais l'usage, comme les mathématiques, les sciences et tout. Je me suis rattrapé après en rencontrant, là encore, des génies en sciences, en maths et... qui m'ont fait aimer ce qui, tout à coup, me devenait clair parce que c'était des gens exceptionnels, qui parlaient donc simplement.
Voilà, et vous avez fait beaucoup d'autres choses. Une autre date est importante pour vous, c'est le 4 juillet 1972. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio. A tout de suite avec Didier Van Cauwelaert.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Didier Van Cauwelaert. On parlera tout à l'heure de ce roman, L'Inconnu du 17 mars, sorti chez Albin Michel. Mais on revient à une date, le 4 juillet 1972. C'est un plein d'essence qui vous fait découvrir un auteur super, dont on va entendre la voix.
Frédéric Dard, dit San Antonio. C'est pas de blague, c'est sur mes papiers. Le 10 San Antonio figure sur mes papiers. Parce que je recevais tellement de courriers à ce nom-là, quand j'allais à la poste pour les recommander, on voulait pas me donner, on me disait, mais qui est San Antonio?
Voilà. Alors, San Antonio, effectivement, ce plein d'essence, c'est la date où l'opération Total a commencé.
Absolument. À l'époque, eh ben, ces stations-service offraient des livres de poche contre un plein d'essence. Et c'est grâce à Total que j'ai découvert trois auteurs qui ne m'ont jamais quitté. Il y avait Berruriel Serra et de San Antonio, il y avait Les mots de Jean-Paul Sartre et il y avait Le petit Nicolas de Goscinny et Sempé. Et c'est vraiment trois chocs de lecture et qui sont très complémentaires parce que la vision au scalpel de Sartre sur le monde des adultes vu par un enfant n'est pas éloignée de celle de Goscinny dans Le petit Nicolas, avec une tendresse d'être plus visible chez Goscinny, mais une lucidité... une acuité absolument égale, et les inventions langagières de San Antonio, la précision du style, de l'image, la jubilation verbale, ça m'a profondément marqué.
Et c'était une opération qui était la première, depuis on offre des BD l'été, c'était la première opération, et là, je me suis renseigné, la plus ancienne boutique ayant servi de station-service, c'est une pharmacie de Wiesloch en Allemagne, qui en 1888 a fourni de l'éther de pétrole, donc de l'essence, à Bertha Benz, qui était la pionnière de l'automobile en Allemagne.
Ah oui.
Ça date de là, c'est pour votre culture personnelle.
Merci, fais bon usage.
Berruriel, donc, c'est un personnage très cher à San Antonio et à Frédéric Dard, il a été gardien de la paix, sergent au 116e tirailleur du Sénégalais. Il avait même un hymne dans ses romans.
Voilà les matelas, les matelas, matelassiers qui partent.
Bourville a chanté La marche des matelassiers, chanson de Frédéric Dard, mise en musique par Joe Moutet. Vous la connaissez?
Un petit peu, pas par cœur, j'aurais pas pu vous la chanter. Là. Mais ouais, Frédéric Dard, j'ai eu la chance qu'il soit en plus un grand ami. Je lui ai fait un cadeau dont je suis très fier. C'est une époque où s'était créé le prix de l'insolence, oui, à l'initiative des parfums Charles Jourdan, qui était mécène. Le jury était présidé par Maurice Reims, qui m'avait fait venir. Et on cherchait un premier lauréat. Et là, j'ai proposé Frédéric Dard, qui à l'époque, vous vous rappelez sûrement, avait François Mitterrand comme personnage clé de ses romans, oui, notamment un qui s'appelait « Après vous, s'il en reste, monsieur le Président ». Et c'était tellement drôle, d'une insolence, d'une provocation. Mitterrand adorait d'ailleurs, oui, il avait invité Frédéric Dard à l'Élysée pour le remercier de s'être repu de son propre personnage.
Et ce prix, ça a été pour vous le moyen de connaître Frédéric Dard, ça s'est passé au Crazy Horse.
Voilà, je crois que vous aviez déjà creusé la question.
Où ont débuté d'ailleurs deux autres humoristes, Raymond Devos et Fernand Reynaud. Raymond Devos quand il était en duo avec Verbeck pour Les Pinsons. Voilà.
Et le discours de Frédéric Dard sur la scène, au milieu des danseuses nues du Crazy Horse, c'était vraiment, il nous remerciait, mais en même temps nous disait, c'est cruel parce que recevoir ce prix au milieu de ces culs somptueux, tout ça, c'est pour moi un silice de plus.
Et vous avez créé une amitié qui a continué avec des déjeuners réguliers et jubilatoires.
Ouais, et puis, voilà, comme il avait une phrase extraordinaire que je lui retourne bien volontiers, Frédéric Dard. Il disait si j'avais su que je l'aimais autant, je l'aurais aimé davantage. Et c'est vrai qu'on croit toujours qu'on est éternel et qu'on ne se voit pas aussi souvent qu'il faudrait. Mais. C'était vraiment, c'est pas parce qu'il est mort, parce que tout le monde le disait déjà de son vivant, mais cet homme était vraiment la bonté incarnée. C'est rare de trouver une bonté quasiment maladive. Et tout le monde s'est nourri de cette dimension humaine après avoir apprécié la dimension littéraire de cet homme.
Et c'était un fidèle en amitié. Moi, je me souviens d'une scène à la gare de Lyon où Robert Hossein, avec qui il travaillait, et lui se font des adieux déchirants. Mais on croyait qu'il se quittait pour la vie alors qu'il devait se voir la scène suivante.
Ouais.
Et aujourd'hui, Frédéric Dard, on me dit que les livres se vendent moins bien. Il n'y a pas longtemps, j'ai parlé à quelqu'un de Frédéric Dard, on m'a écrit Philippe Dard, c'était quelqu'un quand même qui travaille dans la fonction publique. C'est quand même inquiétant, non,
des livres? Oui, alors là, parlons d'autre chose, parce que le problème de la postérité, c'est terrible pour les écrivains, parce que... Alors, tout ce qu'on peut faire, c'est ceux qu'on a aimés littérairement et humainement en plus, parce qu'il y a des écrivains formidables qui sont pas des gens fréquentables dans la vie, mais on s'en fout, ils sont fréquentables dans la bibliothèque. Tout ce qu'on peut faire, c'est rappeler les bonheurs de lecture qu'on a eu grâce à eux. Voilà, moi je fais ça depuis toujours pour Marcel Aimé, pour Félicien Marceau, Michel Déon, tous ceux qui ont jalonné mon parcours, et même pour Sartre, qui n'a pas écrit que des pièces formidables, mais qui a écrit au moins deux chefs-d'œuvre, et en livre, les mots, c'est vraiment un chef-d'œuvre.
Et vous avez un point commun avec Frédéric Dard, Didier Van Cauwelaert, un mot, bienveillance, un mot rare aujourd'hui.
Oui, parce que c'est un mot qui est trop souvent confondu avec mièvrerie, ou genre, oh, il est gentil, vous voyez, cette manière péjorative d'employer ça, alors que pour reprendre le titre d'un de mes précédents ouvrages, la bienveillance est une arme absolue. C'est une arme qui désamorce les autres, qui désarme les autres. Lorsque vous ne pratiquez pas la loi du talion, lorsque vous court-circuitez le mal qu'on veut vous faire ou qu'on a cru vous faire en faisant quelque chose d'agressivement bienveillant, là, vous êtes le roi du monde. Et je me suis rendu compte combien ce qui est... Je fonctionnais comme ça toute ma vie et je me suis nourri sur des gens qui fonctionnaient comme ça. Et à la publication du livre, je me suis rendu compte combien j'étais loin d'être le seul à marcher comme ça et le nombre de gens qui me sont venus m'ouvrir leur cœur parce que ils n'osaient pas en parler, justement. Et ce qui est ringard, ce qui est obsolète, c'est l'agressivité goguenarde, ce sont j'espère les derniers soubresauts de cette espèce de fierté du fiel qui ne rend heureux personne.
Oui, mais dans les médias,
le talent est soluble dans le fiel.
Oui, mais en même temps, regardez, vous prenez aujourd'hui les médias, le buzz, donc avec des choses fausses mais lancées à toute allure, ça marche bien.
Oui, et puis tout ce qui est fait pour jeter le discrédit, pour ricaner l'autre, et pour mais ça, vous savez, ce sont des ripostes d'impuissants face à la véritable jouissance que provoque l'empathie, la bienveillance, le partage avec l'autre. Mais ceux qui restent à côté du truc ont besoin de ricaner. Si ça leur faisait du bien, ça serait plus pardonnable, mais en général, ça leur fait pas de bien non plus, et donc ils se soignent avec un remède toxique.
Voilà, et ça ne durera pas. Alors, Frédéric Dard, c'était la famille, et votre famille, justement, vous êtes né à Nice, mais l'histoire de famille de Van Cauwelaert est passée par la Flandre. Ça pourrait être un vrai roman, Didier Van Cauwelaert.
J'en ai parlé beaucoup dans Le Père Adopté, oui. De ses origines flamandes que je me suis réapproprié, que j'ai réinventé à Nice, où je grandissais. Et il y avait des personnages formidables dans cette famille qui titillaient mon imaginaire, comme un missionnaire qui s'était fait en Amazonie, qui s'était fait boulotter le petit doigt en donnant la communion les cannibales. Ça c'est les vrais stigmates.
Oui, mais vous n'êtes pas le seul, parce que je me suis renseigné, il y a aujourd'hui plus de 8000 Belges inscrits sur la Côte d'Azur auprès du consulat. Et il y a une association de Belges de la Côte d'Azur, les Amitiés Belges de Menton et de Brunecarec-Martin. Mmh. C'est curieux, cet attrait des Belges pour la Côte d'Azur.
Oui, il n'y a pas que les Belges, la Côte d'Azur attire énormément, je pense que c'est très complémentaire. Moi qui ai fait un peu le chemin inverse, qui vais peut-être chercher en Belgique et particulièrement en Flandre ce que les Belges viennent chercher sur la Côte d'Azur. C'est un vrai dépaysement des mentalités, c'est un autre rapport avec l'espace-temps, avec l'extérieur, avec la lumière.
Puis il y a quelque chose justement qui a illuminé vos journées, on en parle avec une autre date, le 29 septembre 2006. À tout de suite sur Sud Radio avec Didier Van Cauwelaert.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Didier Van Cauwelaert. L'inconnu du 17 mars, Albin Michel, on en parle tout à l'heure. Mais on revient à une date importante, c'est le 29 septembre 2006. Ça se passe à Drouot, il y a une vente aux enchères. Et vous achetez, je crois, un bureau. C'est vrai ?
Eh oui, c'était le bureau de Marcel Aimé. En fait, j'étais pas là physiquement parce que j'étais au Prix Audiberti à Antibes. Mais j'ai des amis donc qui sont allés sur place et au téléphone, j'en chérissais. Et voilà, j'avais préparé sur le catalogue ce que je voulais. Il y avait le bureau, le fauteuil que j'avais connu du vivant de Marie-Antoinette, la veuve de Marcel Aimé, puisque malheureusement, lui, il est mort quand j'avais 7 ans. Et voilà, quand vous êtes devant le bureau de votre écrivain préféré... Il se passe une chose extraordinaire et quand j'apprends donc sa petite fille Vendée, j'en chéris, j'avais prévu aussi d'acheter d'autres éditions originales, mais le bureau et le fauteuil sont montés si haut que j'ai dû renoncer au reste, mais ça fait rien parce que disons que je me suis assis sur les éditions originales de manière à pouvoir m'asseoir réellement sur le fauteuil, mais pour mon malheur de temps en temps, parce que ce fauteuil, qui était un fauteuil très bizarre, en forme de drakkar, un fauteuil suédois des années 50, en sky noir, et puis des accoudoirs vraiment, ouais, comme un drakkar. Et quand je m'assieds dedans, au bout d'un moment, je vais croiser les jambes parce que il est un peu décalé. Et en fait, Marcel Aimé écrivait toujours sur une seule fesse, et j'ai dû prendre la même position, sinon ça crée un mal au dos terrible. Donc voilà, si j'ai un point commun avec Marcel Aimé, c'est d'écrire sur la fesse droite.
Oui, car ce bureau est chez vous aujourd'hui, vous écrivez avec lui. Alors, Marcel Aimé, c'est un maître, et je crois que la découverte de Marcel Aimé, c'est ce qui a donné plus tard une comédie musicale. Vous avez lu un jour Le Passe-Muraille d'Ivan Kobolart.
Oui, puis c'est surtout la rencontre avec Michel Legrand, autre rencontre clé. J'espère que je ne vous torpille pas une date. Bon. Jean-Claude Brialy, qui jouait ma pièce Le Nègre au Bouffe Parisien, avait demandé à Michel Legrand de faire la musique. Donc, on est en 1996. Mmh. Et là, Michel Legrand vient en répétition. C'est la première fois qu'on se rencontre. Et il me dit, bon, j'ai lu votre pièce. J'ai lu un livre de vous. Je sais que vous aimez Marcel Aimé. Moi, je suis hanté par l'idée de faire une comédie musicale avec le Passe-Muraille. On va le faire ensemble. Il me demande pas si j'ai déjà travaillé en musique, si j'ai envie d'écrire des chansons, si j'en suis capable. Rien, il n'y a pas un point d'interrogation dans sa phrase. Et il ajoute, je vous ai apporté quelques airs, vous écoutez, vous me dites et on se met au travail. Alors, je rentre chez moi, d'abord je relis la nouvelle, 18 pages, pas un dialogue, donc avec des tas de fils à tirer pour en faire un spectacle. J'écoute les mélodies et déjà je vois les images, j'entends les mots, Et je me lançais. Ça a été le début d'une collaboration et d'une amitié profonde avec Michel pendant 30 ans. Oui. Et on a écrit Le Passe-Muraille, on a écrit Dreyfus, qu'on a créé à l'Opéra de Nice, on a écrit L'Amour Fantôme qui va se créer à l'an prochain. Et on avait plein d'autres projets encore lorsqu'il est parti un peu trop tôt, quoi.
Et Didier Van Kovelaert, vous avez un point commun avec Michel Audiard, puisque Michel Audiard, jeune dialoguiste, avait écrit les dialogues du film Le Passe-Muraille, qui a été tourné avec Bourvil.
Ouais, le film de Jean Boyer. Ouais.
C'était un de ses premiers films. À l'époque, Michel Audiard était encore journaliste, il faisait des critiques de cinéma, il ne voyait pas les films pour être objectif.
Oui, c'est ça.
Et ça a marché pendant des années comme ça. Alors, finalement, vous avez un point commun avec Marcel Aimé, c'est que vous transposez vos rêves dans la réalité. Didier Van Kovelaert.
Et disons que j'invite mes contemporains à se glisser dans une réalité décalée qui va leur faire vivre un rêve, mais un rêve éveillé.
Mais c'est vrai que c'est un point commun, c'est presque de Marcel Aimé que vous l'avez appris, de l'œuvre de Marcel Aimé.
Non, je commençais, j'avais tout. Moi, ce qui me passionne, c'est les accidents. Les accidents dans la réalité, ce qui va casser la trame du quotidien, les repères habituels, et la manière dont après, par un événement surnaturel ou un choc émotionnel, après, ça vous décale complètement, et en même temps, la réalité reprend ses droits, et là, c'est le combat entre les deux, entre la situation totalement inédite et ingérable dans laquelle vous vous trouvez, et le monde qui continue par ailleurs. Et ça, quand j'ai découvert Marcel Aimé tard, à 17 ans, d'un coup je me suis dit, mais voilà, c'est exactement ce que je veux réussir, et là, si lui est arrivé, Allez, on va dire que j'y arriverai aussi.
Alors, ce bureau, il se trouve dans une maison de campagne, avec vue sur un poirier qui est cher à votre cœur, je crois, Didier Van Cauwelen.
Oui, d'autant plus qu'il n'est plus là. Il est mort depuis, mais je l'ai immortalisé dans le journal intime d'un arbre. Donc, il est encore vivant pour mes lecteurs et par ricochet, il est encore pour moi. Ouais, ce poirier de 400 ans qui, évidemment, avait vu passer des générations d'humains, d'animaux et d'arbres et qui nous raconte tout ce qu'il a vécu.
C'est un point commun avec Guy Béard, qui, lorsqu'il vivait à Garches, avait un arbre devant chez lui, Fernand, à qui il parlait tous les matins. Lorsqu'il était de mauvaise humeur, il parlait à l'angle, au mur nord de la maison, parce qu'il ne voulait pas déranger son arbre. C'est vrai qu'on peut parler aux arbres et qu'ils vous entendent.
Absolument, mais ça, c'est une chose très profonde et vraie. Parfois, quand on n'est pas de bonne humeur, on n'a pas le moral, faut pas déranger les arbres, faut être un peu étanche. Je comprends totalement cette réaction-là. En revanche, quand on est malade physiquement, on peut demander aux arbres, je me soigne avec mes arbres, comme j'essaie de les soigner quand ils ont des problèmes. Il suffit simplement de demander l'autorisation aussi, de se sentir ou non le bienvenu, et puis d'échanger l'énergie. D'échanger une énergie, d'accueillir celle de l'arbre et de lui donner celle qu'on a. C'est tout simple, mais au Japon, c'est remboursé par la sécurité sociale.
Oui.
Les bains de forêt, comme ils disent, parce que ça s'explique très bien aussi sur un plan chimique, par les terpènes, par toutes les composés organiques volatiles que les arbres dégagent. Oui, nous pouvons être soignés par les arbres et ils sont sensibles à ce qu'on éprouve pour eux aussi.
Oui, et en un temps où l'écologie est d'actualité, vous êtes quelqu'un qui peut recommander aux gens de s'occuper des plantes vertes dans un appartement, c'est essentiel.
Oui, mais là on est bien au-delà de l'écologie, on est simplement dans le fonctionnement du vivant. Ce qui me passionne, et j'ai encore creusé ça quand j'ai écrit Les émotions cachées des plantes, j'ai eu la chance d'être l'ami pendant plus de 20 ans avec le grand botaniste Jean-Marie Pelt, et qui m'a ouvert les secrets des communications, de la télépathie, on peut pas appeler ça autrement, entre les plantes même de différentes espèces, tous les échanges qui se produisent, et surtout, prenons un exemple, lorsqu'un arbre ou une plante est attaqué par un prédateur, lorsque ça dépasse le seuil de tolérance, il va s'immuniser contre la chenille ou la termite ou ou tel autre nuisible en modifiant la composition de ses feuilles pour les empoisonner. C'est une réponse qui est vraiment dédiée à chaque prédateur. Mais en même temps qu'il se protège, il envoie un message gazeux, on a déterminé le gaz qui est de l'éthylène, aux plantes voisines qui, avant même d'être attaquées, vont modifier la composition de leurs feuilles pour se rendre toxiques pour ce futur ennemi qui viendra. Donc cet échange télépathique par tous les moyens, parce que ça passe aussi par l'échange racinaire, par l'intermédiaire des filaments des champignons qui constituent le sort d'internet des forêts. Voilà, là on est devant l'évidence de la symbiose, tout est lié, et tous les gens qui ont des plantes vertes chez eux, qui leur parlent et qui sentent que ça leur fait du bien comme ils se font du bien eux-mêmes. Non, c'est pas de la blague.
Non, c'est pas de la blague, et vous étudiez le sujet à fond. Ce qui est pas de la blague non plus, c'est tout ce que vous faites autour du paranormal. Il y a une collection qui vient de sortir, que vous dirigez avec un livre de Geneviève Delpech. C'est un univers qui vous fascine depuis toujours.
Les témoins de l'invisible. Oui, j'aime pas le mot paranormal qui a été inventé par le KGB. moment où il fallait pour les soviétiques que la recherche parapsychique, comme on disait à l'époque, soit uniquement faite par les militaires et soit classée défense. Donc la France, comme l'Angleterre, qui était vraiment au premier rang des recherches sur ces domaines-là, le deux prix Nobel en France avait créé l'Institut Métapsychique International. Et tous les grands scientifiques étaient fascinés par la puissance de l'esprit, ce qu'on pouvait faire, la communication à distance, l'influence sur la matière. Et puis, à un moment donné, il a fallu rendre tout ça risible, décrédibilisé. Et voilà, j'ai fait l'état de recherche là-dessus que j'ai publié sur le rôle des services secrets russes pour discréditer ces recherches, pour qu'elles restent top secrètes. Et voilà, les Russes ont continué, comme les Américains, ensuite un programme avec des espions médiums et tout cela. On a tous les éléments aujourd'hui qui étaient déclassifiés. Il y a eu de grands plantages et des réussites impressionnantes aussi, parce qu'il y a toujours un facteur humain, c'est pas une science exacte. Mais voilà, dans ma collection, les témoins de l'extraordinaire chez First, notamment oui, le livre de Geneviève Delpech, Les enquêtes d'une médium, qui cartonne en ce moment, parce qu'il y a le témoignage de tous les policiers et magistrats qui font appel à elle pour retrouver des disparus, vivants ou morts. Et voilà, c'est elle qui, depuis le début, avait vu que Fourniret était l'assassin d'Estelle Mouzin. Personne ne la croyait parce qu'il avait un alibi. Et voilà, cette année, preuve qu'elle avait raison. Et c'est grâce à elle qu'on a pu coincer Nordal Lelandais, parce qu'elle a indiqué aux enquêteurs où était la tache de sang dans la voiture qui pouvait donner l'ADN.
Ce sont des sujets passionnants, et le premier à s'être penché sur cet univers, c'était il y a bien longtemps, c'était dans les années 30, c'est l'auteur de cette chanson.
Tout va très bien, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien.
Chanson interprétée par Ray Ventura.
Écrite par Paul Misraki, qui est celui qui a traduit, enfin ce qui a fait connaître en France Raymond Moody, La vie après la vie. Et qui était un homme absolument délicieux. Et j'ai eu la chance de rencontrer un grand lettré, un grand gourmand de la vie, avec ses mystères, ses joies, et qui prouve que pour être vraiment un bon spécialiste de l'extraordinaire, il faut être quelqu'un de très terrien, de très terrestre, avec des appétits, des compétences terrestres, de manière à pas basculer dans le fumeux, dans le ne pas perdre les pieds, s'intéresser aux étoiles, mais garder les pieds sur terre.
Oui, et Misraki m'avait un jour raconté, il avait 83 ans, qu'à 29 ans, il avait tenté une expérience de sortie dans le corps, de sortie du corps, il était sur son lit et son corps s'était levé, il avait eu un mal fou à rentrer, il n'avait jamais recommencé.
Oui, on dit, je connais beaucoup de gens qui ont fait cette expérience, ils disent, on a besoin d'un chausse-pied pour gagner son enveloppe corporelle. C'est très désagréable. Parce qu'on est si bien une fois qu'on en est sorti, paraît-il. Moi, ça m'est jamais arrivé. On n'a pas envie de rentrer.
Oui. En tout cas, vous préférez être dans votre coin un artisan, car vous restez un artisan. Vous voyez beaucoup de gens et puis vous vous enfermez.
Ah oui, mais j'adore créer à distance une réalité dans laquelle je ne suis pas physiquement. Et puis j'aime les gens parce que je les vois pas tout le temps et que je vis comme un ours. Et donc quand je sors de ma tanière, je suis ravi de voir qu'il y a des gens sur Terre. Je les aimerais un peu moins masqués qu'ils ne le sont en ce moment, mais bon.
Voilà, en tout cas, nous on est ravis de vous accueillir, puisque vous êtes sorti de votre tanière. Et on va parler dans quelques instants de cette date, le 17 septembre 2020, avec ce nouveau livre. Dans quelques instants, avec Didier Van Kevelhart sur Sud Radio.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Didier Van Kevelhart. 17 septembre 2020, sorti de l'inconnu du 17 mars 2020, justement, chez Albin Michel. Un roman que vous avez écrit pendant le confinement et qui a comme sujet le confinement, Didier Van Kevelhart.
Oui, ben vous savez, les auteurs ont ce privilège de pouvoir d'abord être des gens confinés de nature, donc c'est un peu moins difficile pour eux de vivre cette période imposée, mais à condition d'écrire, à condition de reprendre le pouvoir sur la réalité. Et c'est vrai que je me suis dit, que raconter pendant cette période? Je suis pas du genre à tenir un journal de confinement, j'ai besoin d'une œuvre imaginaire, et j'ai besoin surtout de redonner le pouvoir au rêve, et de dire qu'est-ce qu'il peut y avoir de positif, sur quoi cette situation peut-elle déboucher, qui soit de l'ordre du merveilleux, mais d'un merveilleux réaliste, comme j'aime. Et là, tout à coup, je me dis, je sais qui va être mon narrateur, mon héros, ça va être un SDF.
Vous avez croisé, je crois.
Dans un endroit très particulier, une position enviée sur une bouche de métro, mais un endroit près de l'école militaire, bien fréquenté, pourrais-je dire. Et là, j'imagine ce qui se passe. Comment va-t-on confiner ou non un SDF, et surtout le voir à travers son regard. Allez, tous ces gens qui se hâtent avec leurs paquets de pactes et leurs rouleaux de papier toilette pour aller se terrer chez eux, et qui le regardent tout à coup comme une sorte de privilégié. Parce que lui, c'est un droit du sol. Il aura le droit de rester à l'air libre. Et puis lui, il a rien à perdre. Et tout à coup, c'est ça, c'est les bascules intéressantes qui se passent pendant ces moments-là. C'est que tout à coup, ceux qui ont peur de perdre, de ne plus être libre, tout ça, regardent d'un œil... presque jaloux. Celui pour qui rien ne va changer. Lui, il est habitué aux distances sanitaires, de peur que les gens, de peur qu'il ne n'attrape des poux et tout ça, donc ça va pas le changer. Il est tout à coup, il devient cette un personnage qui a le dessus sur les autres. Mais qui est ce personnage ? Moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est d'aller chercher les raisons pour lesquelles une personne est ce qu'elle est aujourd'hui. Et mon sans-abri était un ancien prof, brisé par une injustice terrible, qui a choisi justement cette forme de suicide au long cours en public, au jour le jour, comme riposte, comme seule réponse, une réponse de sorte d'orgueil maso, de dignité par rapport à tout ce qui s'est effondré dans sa vie. Et il a un rythme de vie très très simple. Il est ravitaillé par les commerçants du coin. Chez le Nicolas, lui donne les bouteilles bouchonnées qu'on lui a rapportées. Le restaurant du Père Claude à côté lui donne les reliquats de poulet rôti. Le bouquiniste le nourrit en invendu. Et voilà, un livre par jour, un litre le soir, et le temps passé sans moi, comme il dit, jusqu'au jour où, moment du confinement, va lui arriver la plus grande aventure de sa vie.
Oui, car vous avez imaginé un conte philosophique, à la Marcel Aimé d'ailleurs, Didier Van Cauwelaert, puisque il va être désigné comme l'homme qui peut sauver le monde en arrêtant la pandémie.
Et si l'avenir de l'espèce humaine était entre les mains d'un SDF ? Et ça va lui arriver d'abord par un accident. D'un coup, il est, pour échapper à ces espèces de vérificateurs, vous savez, qui ont envahi les rues avec une sorte de perceuse qui mettait sur le front des gens, qui était un thermomètre frontal, pour si un SDF faisait plus de 37,5, hop, on le mettait dans ce qu'on appelait un centre de desserrement. Alors, c'est une expression complètement baroque qui lui faisait imaginer le pire. Et là, pour échapper à ces contrôleurs, il traverse un peu trop vite la rue en direction du Champ de Mars, il est percuté par une voiture. Et quand il se réveille, celle qui conduit la voiture, c'était son grand amour, son premier amour de jeunesse. Et cette femme qui le suit depuis longtemps, qui l'a abordée de cette manière-là accidentellement, est-ce que c'est vraiment elle ? Où est-ce qu'elle l'entraîne ? Pourquoi a-t-elle décidé que, dans cette longue parenthèse renouvelable que l'humanité risquait d'être appelée à vivre, il ne serait pas inutile de se confiner ensemble. Et elle le ramène sur le lieu qui était leur lieu de rencontre, son lieu de naissance à lui. Il était le fils des gardiens d'un château et il a tout perdu à l'adolescence et quand ses parents et le comte qui posait le château ont été tués. Et cette femme le ramène là-bas pour renouer le fil avec ce qui aurait dû être son existence et peut-être, grâce aux recherches de ce biologiste qui possédait le château, essayer de trouver le moyen de stopper cette pandémie.
Alors, naturellement, vous n'avez pas fait ça par hasard. Vous avez rencontré des amis médecins ou téléphoné des amis médecins pour avoir tous les renseignements et ne pas dire n'importe quoi.
Oui, j'écris ça aussi parce que ça fait très longtemps que je travaille avec des ingénieurs du son, des médecins, des thérapeutes du son et que, voilà, ce sérum sonore que découvre mon personnage découvre le secret, on peut croire que c'est totalement inventé par moi. C'est-à-dire comment empêcher un virus de se développer dans l'organisme ? Eh bien, simplement, une fois qu'on a le séquençage ADN ou ARN de ce virus, eh bien, on transforme en notes de musique les fréquences émises par ce séquençage, par des protéines, et on s'arrange pour empêcher le développement du virus en agissant sur l'eau de notre corps. Et là, vous allez sur Internet, sur Résonance Éducation, vous tapez Biolody et vous découvrirez que beaucoup de gens se sont soignés et guéris en écoutant cette mélodie du virus. Il simplement met en garde l'organisme et a été réarrangé de telle manière que ce virus-là, une fois que l'organisme l'a repéré, elle ne permet plus son développement.
Alors, on a lu des tas de choses, entendu des tas de choses, mais ça, jamais, Didier Van Cauwelaert, dans les médias.
Eh bien, si, mais dans des émissions plus tardives. Donc, et puis, évidemment, les fabricants du futur vaccin ont tellement intérêt à ce qu'il n'existe aucune autre solution, les mêmes qui ont, se sont efforcés de torpiller la chloroquine, mais des vieux médicaments trop peu chers, qui n'intéressaient évidemment pas l'industrie, ne générerait pas de profit, encore moins la thérapie sonore, si elle marche. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que je connais des gens qui ont été totalement guéris à l'écoute. Mais voilà, maintenant, il faut un vrai travail de vérification dessus. Mais voilà, des personnes pour qui on ne faisait plus rien, d'un coup, sont allées mieux. Et on peut le télécharger gratuitement. Alors évidemment, ça n'intéresse, ça ne rapporte rien aux personnes intéressées.
Voilà. Alors, vous le racontez sans prendre de position scientifique, Didier Van Cauwelaert. C'est une information, après, au public de juger, d'essayer.
Oui, et puis les gens vont trouver ça, vont trouver tous les travaux de Joël Sternheimer qui ont prouvé scientifiquement comment on peut faire pousser des tomates sans eau, uniquement en leur envoyant la musique de leurs protéines dans des haut-parleurs. Tout ça, ça a été fait dans les... au CNRS, ça a été fait sous contrôle scientifique et ça a été enterré évidemment par l'industrie agroalimentaire parce que c'est la mort des pesticides, les OGM n'ont plus de raison d'être. Voilà, si dans les années 80 où tout cela a été vérifié, prouvé, l'industrie s'en était emparée, le monde aurait une autre face aujourd'hui.
Et il y a longtemps que vous avez été informé de tout ça et que vous travaillez sur ce sujet.
Oui, ben, vous savez, les scientifiques, comme ça, moi j'ai peur de rien et tout ce qui me passionne, je le vérifie et je le transmets. Et ben, évidemment, on trouve dans mes romans souvent des références à ces travaux-là. Je démontre souvent des choses par les personnages de fiction. Et quand les gens vont vérifier un petit peu aujourd'hui, les mots-clés, c'est bien, parce que vous dites que là, il a inventé un truc, vous tapez le mot-clé, et non, vous découvrez que tout n'est pas inventé. Mais bon, ce roman peut se lire aussi comme une détox par rapport à notre époque, un conte de fées philosophique sur la renaissance d'un sans-abri grâce à cette période de confinement et provoquée par un virus. On peut le lire aussi comme une proposition, essayer de sortir de cette situation terrifiante dans laquelle les pouvoirs publics et l'industrie pharmaceutique essaient de nous engluer. À chacun de reprendre le pouvoir. Mon rôle, il est là, il est de faire entendre d'autres voix, de montrer quelques directions. Après, les gens choisissent d'aller où ils veulent. Et leur esprit critique doit simplement rester vigilant par rapport leur capacité d'émerveillement que je m'efforce de nourrir.
Voilà. Il y a un thème dont on parle enfin aujourd'hui, et je crois que vous avez été le premier à en parler bien avant le coronavirus, c'est les chiens détecteurs de virus, Didier Van Cauwelaert.
Oui, alors ça aussi, moi je me suis occupé de beaucoup de chiens d'aveugles et également des chiens détecteurs d'épilepsie. Et puis aujourd'hui, la preuve est faite que le système, le test le plus efficace sont les chiens à qui on fait respirer la molécule du coronavirus, puisque on l'a. Et de la même manière qu'ils dépistent le cancer de la vessie ou de la prostate avec infiniment plus de précision et d'exactitude que n'importe quel appareil, eh bien voilà, j'étais tombé sur cette nouvelle extraordinaire où pendant le confinement, un Eurostar avait été affrété pour un gars des banlieues en Seine-Saint-Denis, parce que ce qui était un formateur de chiens, et c'est lui qui avait eu l'idée de tester ce premier chien, un laboratoire anglais a entendu ça, il a fait venir, vraiment dans ce train, seul dans ce train, cet homme et ce chien, et aujourd'hui, voilà, on a la certitude que ça marche, et comme toujours, il faut aider un petit peu la réalité. Tous les épisodes dans le livre avec où l'on voit ces chiens détecteurs de virus qui permettent justement de faire le travail que les tests ont toujours les moyens de le faire. Voilà, à la réalité maintenant de copier ma fiction.
Voilà.
Et de tester massivement grâce aux chiens et je m'en occupe aussi dans la réalité parce qu'il faut... Je m'occupe de beaucoup d'œuvres humanitaires autour des animaux et là... Tous les services extraordinaires que peuvent nous rendre les chiens, en plus ils sont demandeurs, ils sont tellement heureux de pouvoir rendre service. C'est un jeu pour eux, tout ça. Mais un jeu qui fait du bien et qui nous fait du bien.
Vous dites dans ce roman, Didier Van Cauwelaert, qu'il fallait que la planète se ferme pour que les cœurs s'ouvrent.
Oui, c'est ce que dit l'héroïne, cette inconnue du 17 mars, Qui est-elle? Est-ce que c'est vraiment le premier amour miraculeusement conservé de cet homme? Est-ce que c'est une créature venue d'ailleurs? Est-ce que c'est un rêve incarné? Voilà, dévoilons surtout pas la fin du livre, qui est un grand rebondissement, mais l'essentiel, c'est que le message que nous apporte cette femme, en disant que ce virus est peut-être la dernière chance pour l'humanité de changer son comportement, que la prise de conscience, l'empathie, la solidarité, le rebond d'amour incite l'être humain à sauver sa peau, parce que sinon, on sait très bien que la Terre peut vivre sans l'être humain, qu'elle l'a fait pendant des centaines de millions d'années, et il est temps de se réveiller.
J'ai beaucoup cherché dans votre livre, j'ai trouvé ni le mot cluster, ni le mot fake news. C'est-à-dire, vous défendez vraiment la langue française jusqu'au bout, en écrivant vos manuscrits, en les raturant plusieurs fois.
Oui, et puis en plus, vous savez, je ne suis pas contre les mots qui trouvent leur place dans la langue, s'ils sont beaux, mais d'abord, ça ne sert à rien, c'est moche. Cluster, bon, fake news, ben, une fausse nouvelle, c'est aussi parlant, je trouve. Non, ça devient du tic langagier et du conformisme. Surtout, moi, je suis un ennemi de tous les conformismes inutiles. En revanche, les puristes qui disent il faut bannir les mots anglais, par exemple barbecue, il ne faut plus dire barbecue. Et non, je leur réponds que barbecue, c'est un mot français que nous ont volé les Anglais. C'était rôtir l'animal de la barbe au cul. Ils ont dit ça, le barbecue. Ouais. Donc, non, il ne faut pas refuser les mots. Par exemple, zapping. Quand il y a une recommandation officielle, il fallait remplacer par zappage, ça n'a jamais marché. Parce que zappage, ça fait nappage, c'est un mot mou. Zapping, c'est, on sent la nervosité. Donc il faut laisser leur chance au mot, mais je peux vous parier que dès qu'on en aura fini avec cette saleté de virus, cluster disparaîtra. Fake news, je suis moins optimiste.
Ouais. En tout cas, ce qui ne disparaîtra pas, c'est L'Inconnu du 17 mars, ce roman chez Albin Michel, que je recommande à toutes celles et ceux qui nous écoutent, qu'ils aient ou non le coronavirus, parce qu'on apprend plein de choses et on rêve surtout avec ce conflit philosophique. Merci de l'avoir écrit, Didier Van Cauwelaert.
Merci à vous.
Et puis, bah, écoutez, on se retrouve bientôt pour d'autres clés d'une vie. Et en attendant, bonne écoute, celle de Sud Radio.